On ne peut pas parler sans invoquer l'Esprit Saint d'abord. En tout cas, pour moi, j'en ai besoin. Viens, 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 lumière sans crépuscule. Viens, espérance qui veut sauver tous. N'échappera pas que la venue de l'Esprit Saint en nous, corporellement, c'est le phénomène le plus extraordinaire, le plus grand miracle qui soit. Et donc tout ce que je vous raconte ici, ça a un certain intérêt, mais l'Esprit Saint a beaucoup plus d'intérêt. Et il est important qu'il pénètre à l'intérieur de nous. C'est le miracle par excellence, et c'est le début de la transfiguration et de la déification. Donc ce que nous venons de faire, c'est déjà le sommet. Alors je vais aborder, mais malheureusement je le dirai souvent au cours de cet exposé, trop rapidement des phénomènes qui ressemblent aux phénomènes de la vie mystique que je viens d'énumérer. Mais ici la différence, c'est qu'il n'y a aucune référence spirituelle explicite dans l'apparition et la pratique de ces phénomènes. Et je vise ici les phénomènes qu'on appelle de parapsychologie ou de métapsychique. La parapsychologie, c'est un domaine de la science, il ne faut pas croire que c'est des trucs de charlatans, qui s'intéresse en laboratoire à certains phénomènes étonnants et inexpliqués. Tandis que la métapsychique, c'est une approche globale, qualitative, de certains, par exemple des médiums, des thaumaturges, etc. C'est ces deux branches de la même science expérimentale. Il s'agit bien de science expérimentale, pas de délire. Parce qu'il faut évacuer ici un gros préjugé que beaucoup de personnes portent en elles, c'est que le parapsychologique, c'est vraiment de la prestidigitation. Ce n'est pas vrai du tout. Des personnes qui se sont intéressées de près, des chercheurs, disent ce qui est étonnant dans le domaine de la parapsychologie, c'est que plus vous réalisez d'expériences, plus vous démontrez que ces phénomènes sont réels, et plus vous allez rencontrer d'opposition. De gens qui évacuent ça en disant « mais non, tout ça c'est du bidon ». Mais pourquoi ? Parce que justement ces phénomènes sont inexplicables, inexplicables, on n'a aucune explication. Je vais passer rapidement. En fait, il y a deux types de phénomènes que l'on rencontre habituellement. C'est des connaissances mentales étonnantes, inexpliquées, et l'action du psychisme ou de l'esprit ou de la conscience sur la matière. C'est deux domaines un peu différents. Alors, les connaissances mentales, on les appelle aussi les perceptions extrasensorielles, qui ne dépendent donc pas de nos sens habituels, sans utilisation des sens. Et dans cette catégorie, nous trouvons par exemple la télépathie, qui est une communication non-verbale de pensée d'une personne à une autre, que tous nous vivons de manière régulière, je pense, plus ou moins fortement. Deuxième phénomène, c'est la clairvoyance. Nous l'avons rencontré, par exemple, quand je vous parlais du Padre Pio, mais il ne faut pas être un saint pour être clairvoyant. Il y a des personnes qui le sont, en dehors de tout contexte religieux. Il y a aussi ce qu'on appelle la précognition, c'est-à-dire si vous voulez, on dit ça en langage populaire, le pressentiment. On a le pressentiment, par exemple, on pense à une personne qui va nous téléphoner dans les minutes qui suivent. On pense à une personne qu'on n'a plus vue depuis des années et que par hasard, ce jour-là, on rencontre deux fois. Très étonnant, mais c'est comme si on le savait à l'avance. Et alors, il y a un autre phénomène, beaucoup, beaucoup étudié en laboratoire. C'est le phénomène de ce qu'on appelle la vision à distance. Ça, c'est très, très étonnant. C'est la capacité de décrire des objets cachés ou des lieux lointains. Ce n'est pas donné à tout le monde, certaines personnes sont plus douées que d'autres. Par exemple, on donne à une personne une enveloppe fermée. Et l'expérimentateur, comme on procède en double aveugle pour être sûr de la validité de l'expérience, l'expérimentateur lui-même ne sait pas ce qui se trouve dans l'enveloppe. Et la personne est appelée à décrire ce qui se trouve. Par exemple, ça peut être un article de journal, et la personne dit, je vois un texte, il est question de cela, cela, cela. C'est plus ou moins précis, selon les dons de la personne qui fait l'objet de l'expérience, mais parfois c'est d'une précision tout à fait étonnante. Ça peut être aussi une caisse dans laquelle on a emballé un objet dont on doit deviner la nature, la composition, etc. Il faut savoir que l'armée américaine, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, dans les années 60, dans le contexte de la guerre froide avec l'Union soviétique, a employé des personnes très douées pour la vision à distance, dans le but d'un espionnage militaire. Par exemple, il y avait un homme célèbre, enfin plusieurs, Moon Ingle, à qui on disait, voilà, on vous donne une carte. Une carte, et vous allez nous décrire ce qui se passe à cet endroit-là, en Union soviétique. Il savait que c'était en Union soviétique. Il dit, je vois un hangar, et dans ce hangar, ça ne se produit pas en quelques secondes, hein, il se concentre, il fait le vide. Dans ce hangar, je vois qu'on construit un engin qui ressemble à un bateau. Attendez, non, ce n'est pas un bateau, c'est plutôt un genre sous-marin, et je vois sur le côté des lampes de rancement destinées à des roquettes. Il mesure telle dimension, etc. Et il sera, je pense que cet engin sera lancé dans 22 mois exactement. Bon, tout le monde rigole en disant, bon, bien essayé, pourquoi pas. 22 mois plus tard, les Soviétiques mettent à l'eau un sous-marin expérimental dont les lance-roquettes se situaient exactement où le voyant les avait vus. Ça, c'est une expérience parmi des milliers d'autres. Alors, toutes les expériences ne réussissent pas, mais beaucoup, beaucoup, des centaines et des centaines d'expériences ont réussi avec ce Moon Ingle dont je vous parle, mais aussi avec d'autres. Et ça s'appelait aux États-Unis le projet, c'est pas Star Wars, c'est Star quelque chose. Donc, c'était très connu, et c'est le président Jimmy Carter qui a révélé ça à partir du moment où la guerre froide était terminée et qu'on pouvait ouvrir les dossiers de l'armée américaine. Voilà, donc c'est un phénomène archi connu, et vraiment dans tous les pays du monde, il y a des gens qui sont capables de faire des expériences de ce type-là. Ça, c'est le premier type, c'est le pouvoir mental de certaines personnes. Deuxième chose, c'est l'influence du psychisme sur la matière. Par exemple, dans ce domaine, les interactions entre la volonté d'un sujet qu'on appelle l'émetteur et une matière, soit inanimée, comme cette bougie par exemple, ou soit animée, comme un autre être humain, un animal, une plante, etc. C'est ce qu'on appelle la psychokinèse. Psychokinèse, c'est le mouvement, hein. Donc parvenir à faire bouger ou croître ou se déplacer un objet, une plante ou un être humain, simplement par la force de la pensée. Je n'entre pas dans les détails, là. Vous verrez par vous-même si ça vous intéresse. Il y a des tas de livres, dont deux que je vous recommande. Il y a un chercheur américain en neurosciences qui s'appelle Dean Radin, si on veut, en français, qui a décrit, lui il est vraiment impliqué comme chercheur dans ce type d'expérience, il a décrit ça dans un livre que je vous signale. Et il y a aussi un autre chercheur canadien, cette fois, qui s'appelle Mario Beauregard, qui a écrit « Les pouvoirs de la conscience », et c'est un homme tout à fait sérieux, un docteur en neurosciences. Je vous recommande la lecture de ce livre si le sujet vous intéresse, mais il y en a des tas. Bien sûr, nous retrouvons de farouches adversaires de tout ce type d'expérience, mais en général, les adversaires ne s'intéressent pas réellement à ces expériences. Ils disent simplement, tout ça, c'est de la prestidigitation, c'est du bidon, c'est de la frime. Voilà. Alors maintenant, nous passons à un autre sujet, avant d'aborder la physique contemporaine. Ce sont les expériences de mort imminente. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà lu sur la question. Et ce sont à nouveau des phénomènes tout à fait inexpliqués, mais qui nous apprennent pas mal de choses sur notre sujet du jour. Elles sont très connues, ce genre d'expérience, et de nombreux livres y sont consacrés. Alors, qu'est-ce qui est intéressant pour nous? Eh bien, c'est d'abord de constater l'indépendance de la conscience par rapport au cerveau. Parce que à partir du moment où le cœur s'est arrêté, le cerveau s'est arrêté, l'électroencéphalogramme est tout à fait plat, donc le cerveau ne fonctionne plus. Or, ces personnes vivent des expériences d'une précision hallucinante qu'ils racontent par la suite et qu'on ne peut pas rapporter au fonctionnement du cerveau puisque le cerveau est à l'arrêt. C'est comme si vous disiez, je voyage dans une voiture qui est à l'arrêt. Donc, c'est bien la preuve que quelque chose d'autre échappe à notre matière cervicale. D'autre part, ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette conscience ne survit pas dans une espèce de brouillard, mais a accès à un monde étonnant et à des connaissances tout à fait extraordinaires, qui dépassent les connaissances auxquelles on peut atteindre, nous, dans la vie ordinaire. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un neuroscientifique américain qui a vécu une expérience de ce type, qui s'appelle Alexander, docteur Alexander, qui décrit son expérience et qui dit « Je suis revenu avec des connaissances en physique, en médecine, dans tous les domaines, en biologie, incroyables. Je voyais comment fonctionnait la réalité. » Malheureusement, parce qu'il y a un gros malheureusement, c'est que ça s'efface comme un rêve. Une fois qu'on revient, on a des bribes de connaissances qui nous restent, mais on ne sait plus les... Et il dit, j'ai vraiment raté une occasion là de faire un bond gigantesque dans la science et dans la compréhension de la réalité. Mais il n'est pas le seul à dire ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, nous avons accédé à des choses extraordinaires au point de vue simplement de la connaissance. Voilà. Alors... c'est le même sujet, mais il y a donc là la preuve que notre conscience survit à la mort du corps et du cerveau. Et enfin, il y a un autre aspect très intéressant qui touche tout à fait à notre sujet, c'est celui de la transmutation de la matière. Parce que les gens qui vivent ce type d'expérience voient, se voient et surtout voient d'autres êtres corporellement. Ce ne sont pas simplement des voix, une espèce de brouillard diffus et diaphane, on rencontre dans ce type d'expérience des êtres qui ont un corps. Et alors qu'eux-mêmes sont sortis de leur corps, puisque le corps, ils le voient couché sur la table d'opération ou dans le lit, etc. Et on rencontre quand même un autre type de corps qui fait penser à ce que, dans certains milieux, on appelle le corps astral, mais en langage plus chrétien, le corps glorieux, le corps de gloire. Un corps lumineux qui ne répond plus aux caractéristiques de notre corps physique. Voilà, c'est un immense, immense sujet sur lequel je vous invite à vous pencher, si ce n'est déjà fait. Je le signalais simplement au passage parce que c'est vraiment tout à fait dans le sujet du jour. Alors maintenant, nous allons aborder, j'ai tourné trop vite, voilà, les découvertes contemporaines de la physique et la question du réel. Parce qu'au fond, notre quête tourne autour toujours de cette même question. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que le réel? Au-delà des apparences. Puisque la science, comme vous le savez, s'intéresse aux phénomènes, c'est-à-dire au monde des apparences. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et curieusement, la physique quantique, à notre époque, ouvre quelques portes sur le monde au-delà des apparences. Alors, je vais... C'est extrêmement difficile d'abord de comprendre la physique et deuxièmement d'en parler en 20 minutes. C'est vraiment une mission impossible, mais tant pis. Je vous renvoie donc au travail écrit où je donne quelques pistes de lecture, quelques annexes avec beaucoup de citations. Alors je vais essayer de rester plus ou moins dans le temps en abordant la chose de trois manières différentes. Le premier chapitre nous décrira brièvement les découvertes étonnantes de la physique quantique qui s'intéresse, comme vous le savez, au monde subatomique, donc le monde de l'infiniment petit, et les questions fondamentales que ça soulève. Dans un deuxième chapitre, j'évoquerai l'émergence d'un nouveau paradigme. Vous savez que le paradigme, c'est une manière, une vision du monde. Eh bien, il y a une nouvelle vision du monde qui émerge de la physique quantique, qui se dégage de ces découvertes étonnantes. Et le troisième tentera, avec beaucoup d'approximation et de modestie, je dois le reconnaître, d'évoquer la place de la conscience dans cet ensemble. Alors, premier chapitre, les découvertes étonnantes de la physique quantique. C'est vraiment vous avez connu le Marabout Flash, c'était une petite collection, vous savez, toute la Chine en 25 pages, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Pour paraphraser Lucky Luke, vous savez, quand Lucky Luke arrive dans une ville un peu douteuse, il y a toujours étranger, toi qui entres ici, perds tout espoir d'en sortir. Eh bien, c'est ce qu'on pourrait dire dans la physique quantique. Étranger, tu entres dans un territoire dont tu n'es pas sûr de sortir vivant. En tout cas, un peu déboussolé. Par exemple, Niels Bohr, qui est un des pères fondateurs de la physique quantique, vous connaissez peut-être ce nom, disait « Quiconque n'est pas choqué par la physique quantique, quand il la découvre, ne l'a certainement pas comprise. » Et Richard Feynman, un autre grand physicien quantique, disait « Si vous croyez comprendre ce que je viens de vous expliquer, c'est que je me suis mal expliqué. » Ça veut dire, on perd pied. Einstein disait d'ailleurs, je ne l'ai pas repris ici, quand j'entre dans la physique actuelle, le sol se dérobe sous moi. Or, Einstein n'était pas, comme vous le savez, un imbécile. Donc, ne croyons pas aujourd'hui comprendre ce que je vais vous dire. D'ailleurs, je n'y comprends rien moi-même. Dans la physique classique, la vision classique de Newton et compagnie, qui a eu cours pendant des siècles, on croyait que le monde était fait de matière solide, stable, isolée, inerte, qui était sagement répartie dans des objets séparés les uns des autres, sans interaction entre eux. La seule chose qui interagissait, c'était les forces, les grandes forces fondamentales de la gravité, ça c'était le sujet de Newton, et puis par la suite on a découvert la force électromagnétique qui soude des objets comme ce verre entre eux, et puis les deux forces nucléaires atomiques qui soudent les atomes entre eux. Ça c'était la vision classique. Et donc le monde classique était perçu comme une vaste mécanique, une grande horloge, si vous voulez, où tout s'emboîtait les uns les autres dans un principe de causalité avec deux absolus qui étaient l'espace et le temps. Et tout ça fonctionnait parfaitement de manière déterministe. Vous connaissez peut-être le sien Laplace, au début du 19e siècle, qui disait si on donne à quelqu'un qui a une grande intelligence, tous les composants dans l'espace, le temps, la matière, la composition, on peut prévoir exactement ce qui va se passer juste après. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Tout est déterminé par quelques lois fondamentales. Eh bien, cette vision classique a été balayée au début du XXe siècle par deux grandes vagues. La première vague, c'est celle qui a été initiée par Einstein avec la relativité restreinte en 1905 et la relativité générale 10 ans plus tard. Alors que découvre Einstein? C'est vraiment un super résumé, hein, parce que j'y comprends rien. C'est que la lumière est composée à la fois d'ondes, comme le tenaient certains, et de particules, comme le tenaient d'autres. Et c'était quelque chose d'irréconciliable, nous allons le retrouver en physique quantique. Donc ondes et particules. Que la masse des corps matériels est une énergie. Énergie égale masse fois vitesse de la lumière mc carré. Tout le monde connaît cette formule maintenant. Que le temps et l'espace étaient intimement intriqués, liés. Il n'y a pas le temps d'un côté, l'espace de l'autre. Les deux sont l'espace-temps. C'est une seule dimension de la réalité. Et donc nous n'avons plus une réalité en 3 dimensions, longueur, profondeur, hauteur, mais nous avons une réalité en 4 dimensions. On y ajoute l'espace-temps. Déjà là, on est complètement perdu. Et que, donc cette vision du monde en 3 dimensions était fausse. Et que le temps et l'espace sont intimement liés à la position de l'observateur et à la vitesse de déplacement de l'objet observé. Et dernière chose, c'est dans la relativité générale, c'est que l'espace est courbé et le temps, puisque l'espace et le temps est courbé, et la gravité en réalité est une courbure de l'espace-temps. Déjà ça, c'était un fameux coup de pied dans la fourmilière. On quittait la vision qui avait cours pendant 3 siècles depuis Newton et on entrait dans une nouvelle vision du monde, dans une vision du monde macro, le monde des étoiles, le monde des astres, etc. Et d'autre part, nous allons à l'autre extrême, vous rappelez-vous Pascal qui disait l'infiniment grand et l'infiniment petit, et nous passons cette fois-ci dans l'infiniment petit. Et ça, c'est l'introduction de la physique quantique dans les années 1920 et 30. C'est la physique qui se consacre à l'étude de la matière dans le tout petit, 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 Vous savez qu'avant, on pensait que la matière était constituée de briques fondamentales. C'est ce qui venait déjà des Grecs, qu'on appelait les philosophes atomistes. C'est Démocrite et d'autres qui ont dit, ils ont eu cette intuition géniale, au fond, la matière, elle n'est pas ce que nous voyons, elle est faite de toutes petites billes qu'on appelle les atomes, c'est-à-dire, atomos, ça veut dire ce qu'on ne peut pas couper, qu'on ne peut pas séparer. Et donc, voilà, la matière, on la voyait comme ça, en apparence, c'est une bougie, mais à l'intérieur, il y a des milliards de petites billes. Et ces petites billes, en fait, on a découvert progressivement qu'il y avait un noyau, le proton et le neutron, et qu'autour de ce noyau tournaient d'autres petites billes qu'on appelle les électrons. Et donc, on considérait que dans la physique de l'infiniment petit, c'était comme des petits systèmes planétaires, si vous voulez, comme des petits soleils, les noyaux, autour duquel tournaient les planètes, les électrons. C'est ce qu'on appelle le modèle de Rutherford. Et en fait, ce modèle a été totalement remis en cause par la physique quantique. Alors, il y a deux expériences dont je dois vous parler, parce que ce sont les expériences fondatrices de la physique quantique. La première, c'est celle qu'on appelle des fentes de Young, ou Young, qui est un physicien anglais du 19e siècle. Si on avait le temps, je vous décrirais, j'espérais avec le tableau vous faire un dessin de l'expérience. Vous imaginez quelque chose qui projette des photons ou des électrons, donc qui envoie un canon, si vous voulez, en face d'une plaque qui est percée soit d'une fente, soit de deux fentes. Et derrière les fentes se trouve un écran. Si vous projetez logiquement un par un les électrons, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont choisir de passer à gauche ou à droite s'il y a deux fentes. Et donc, vont se projeter sur l'écran sous forme de deux lignes d'interférence. Vous aurez comme ça, si j'avais deux bics, eh bien, voilà. Je me mets deux doigts, voilà ce que ça donne. Or, ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui va se passer, c'est que sur l'écran, vous allez avoir comme un gros nuage. Ce qui veut dire que la lumière circule, ou les électrons circulent, sous forme d'ondes, et pas de particules isolées. Mais si on commence à observer, c'est-à-dire si on place un détecteur d'électrons ou de photons, on va voir qu'à ce moment-là, l'onde se réduit, c'est ce qu'on appelle la réduction de l'onde, ou du paquet d'ondes, l'onde se réduit en une particule, c'est-à-dire un tout petit point. Et donc vous avez à la fois la matière, composée soit de photons, soit d'électrons dans notre cas, qui est à la fois une onde, partout, l'onde, sa caractéristique, c'est un nuage, une onde, hein. Elle est répandue partout, elle se déplace avec des courbures comme ça, comme les vagues sur la mer. Mais si vous commencez à observer l'onde, elle se réduit en un tout petit point. Imaginez que vous sortiez d'ici, vous êtes dans le brouillard, il y a un brouillard très épais. Vous ne le savez pas, mais c'est le cas, il y a un brouillard. Et vous recommencez à regarder le brouillard, et ce brouillard se réduit d'un coup et devient un point minuscule. Voilà ce que nous apprend l'expérience des fentes de Young. Donc, quelque chose de tout à fait invraisemblable. Alors, ce qui est très étonnant aussi, c'est que ça nous démontre le rôle fondamental de l'observateur par rapport à la matière observée. Et donc, nous trouvons déjà ici une interaction entre l'esprit de l'homme, sa conscience, son intention, son observation et la matière. Par le simple fait de l'observation, l'onde est devenue particule. Voilà quelque chose de tout à fait incompréhensible. Et il se produit ce qu'on appelle, je vous l'ai dit, l'effondrement de la fonction d'onde, puisque ça s'effondre en une particule, ou alors on peut l'appeler aussi le saut quantique. Pas le saut quantique, mais le saut. La matière a fait un bond inexplicable du simple fait qu'un observateur est entré en scène. Et donc, ça veut dire que l'observateur n'est plus extérieur à la réalité observée. Il en fait partie. Et donc, nous sommes dans un seul système, observateur, être humain, et matière observée. Voilà quelque chose déjà de tout à fait intéressant et fondamental. Nous sommes donc participants de la réalité que nous observons. Comme l'écrivait un physicien, l'homme n'est plus un spectateur indépendant du réel qu'il explore. Ça, c'est la vision classique. On était en dehors du réel, à distance, mais il en est partie intégrante. Déjà ça, je trouve ça magnifique. La deuxième expérience est tout aussi étonnante, j'allais dire sinon plus, c'est ce qu'on appelle l'expérience EPR, des noms d'Einstein, Podolsky, Rosen, qui sont trois physiciens. Einstein avait dit, vous savez qu'Einstein a beaucoup résisté à la physique quantique, qu'il avait pourtant lui-même contribué à découvrir, et il s'opposait à Niels Bohr, dont je vous citais tout à l'heure, étranger, si tu entres ici, tu as tout espoir. Et il disait, il y a quelque chose qui m'échappe, parce que Einstein, qui était ce qu'on appelle un réaliste, pensait que la réalité existait comme telle, et que l'observateur y était extérieur, ce que je vous dis de la vision classique, et qu'un jour, la science serait tellement avancée, tellement développée, que nous pourrions connaître toute la réalité. Et il propose une expérience qui est très connue, qui a été réalisée finalement seulement en 1982 par Alain Aspect en France, parce qu'avant on n'avait pas les moyens technologiques de la réaliser. C'est ce qu'on appelle l'expérience de non-séparabilité. Nous avons deux photons au départ qui ont interagi. Donc, si vous voulez, ils se connaissent. On va séparer ces deux photons, A et B, et les envoyer dans deux directions différentes, à des kilomètres et des kilomètres de distance. La distance ne va jouer aucun rôle dans l'expérience. On agit sur le photon A ou l'électron A, et immédiatement, de manière instantanée, quelle que soit la distance, l'action se propage ou se manifeste dans le photon ou l'électron B. C'est absolument incompréhensible. Ça veut dire que l'espace n'existe plus pour ces deux photons ou ces deux protons. Ou alors, ça veut dire aussi, il y a deux interprétations, qu'ils sont totalement inséparables. Même si on les sépare physiquement, ils restent connectés. C'est ce qu'on appelle l'interconnexion ou l'intrication en physique quantique. Et ça, c'est un phénomène extraordinaire, gigantesque, parce que ça veut dire que toutes les particules de l'univers, je vous passe, hein, je résume ici, toutes les particules de l'univers sont interconnectées, intriquées, y compris les particules qui nous constituent, c'est-à-dire nous, les êtres biologiques, les plantes, les animaux, tout est interconnecté. Et ça, c'est la physique quantique qui l'a découverte. Ce ne sont pas des élucubrations mystiques. Je vous invite à lire, j'ai mis beaucoup de citations, excusez-moi, avant de parler de ça. C'est ce qu'on appelle la non-séparabilité, puisque les deux particules ne peuvent pas être séparées malgré toutes les apparences. Elles sont séparées, mais elles ne le sont pas. Ou alors la non-localité. C'est très important ce terme de non-localité. Et ça revient constamment dans la physique contemporaine. Ça veut dire que c'est comme si l'espace n'existait plus. On ne peut pas localiser, puisque une particule, finalement, occupe tout l'espace. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je vous ai dit que ce n'était pas compréhensible. La preuve est faite. Et donc, quelque part, la matière est dématérialisée en physique quantique. Nous ne savons pas exactement ce qu'est la matière subatomique, l'infiniment petit, tellement ses caractéristiques sont déroutantes, on perd complètement pied. On est à l'opposé de notre expérience quotidienne. Alors, pour résumer le tout, je vous l'ai déjà dit, les particules sont à la fois ondes et particules, c'est-à-dire petits points. Elles ne sont pas des objets solides, substantiels, mais plutôt des vibrations, des nuages. Quand vous vous représentez, comme je vous disais, l'électron qui tourne autour du noyau, c'est une fausse représentation. Vous devez vous représenter le noyau, partons de lui, qui tournoie sur lui-même, qui est entouré d'un nuage. Et ce nuage, ce sont les électrons. Et tant qu'ils ne sont pas observés, l'électron est partout en réalité. On ne sait pas où il se trouve et il se trouve partout. C'est ce que disent les physiciens. Ça veut dire aussi que la matière est animée d'un dynamisme fondamental et constant. La matière est en vibration constante. Non seulement dans l'infiniment petit, mais dans l'infiniment grand, puisque l'infiniment grand est composé de l'infiniment petit. Le problème, c'est de relier les deux. Dans les lois de la physique. On cherche pour le moment une théorie qu'on appelle la théorie de la gravité quantique, donc de relier ce qu'on connaît de l'infiniment grand, la gravité, les astres, etc., à ce qu'on connaît de l'infiniment petit dans la physique quantique, ou plutôt ce qu'on ne connaît plus, puisqu'on a perdu pied. Et donc, nous rejoignons ici, et c'est très étonnant et émouvant, je trouve, la conception orientale de la création ou de la nature. Vous savez qu'en Orient, les bouddhistes et les hindouistes avant eux ont une conception de la nature qui est une danse, ce qu'on appelle la danse cosmique ou la danse de Shiva en Inde. Tout est en mouvement, tout est en interaction, tout vibre et tout danse constamment. Eh bien, cette vision, qui était la vision philosophique orientale, les physiciens quantiques actuellement l'ont rejoint totalement. Et je n'ai pas le temps de vous citer, vous les trouverez en annexe, des belles citations, mais c'est tout à fait hallucinant. Donc la matière est animée d'un dynamisme fondamental. Et une autre grande notion très importante qui a été découverte à notre époque, c'est la notion de vide, qu'on appelle le vide quantique. Et le vide n'est pas vide, comme vous pouvez déjà le pressentir, puisqu'on est dans le domaine de l'improbable et de, pas du farfelu, mais de l'étonnant. Le vide quantique, ce sont des champs d'énergie où circulent des milliards de particules qui apparaissent et disparaissent à chaque instant. Ça nous entoure, on ne s'en rend pas compte, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de vide vraiment vide. Tout est en mouvement et en interaction permanente. Ce sont des champs énergétiques qui sont fondamentalement instables puisqu'ils se transforment en permanence, qui sont parfois susceptibles de se matérialiser puis de se dématérialiser. C'est ce qu'on observe par exemple dans les accélérateurs de particules, notamment le grand accélérateur à Genève, au CERN à Genève. Des milliards de particules apparaissent en un millionième de seconde et disparaissent et se transforment. Un proton devient un électron se transforme en photon, et c'est un jeu, un ballet incroyable, et c'est la réalité de la matière. C'est provoqué artificiellement, si vous voulez, parce qu'on fait circuler les particules à une vitesse qui est proche de la vitesse de la lumière, mais ce sont des phénomènes qui se produisent constamment dans l'espace qui nous entoure et en nous. Voilà. Je vous invite d'ailleurs à lire un très beau livre à ce sujet de Trinh Xuan Thuan, qui est un astrophysicien, qui a écrit un livre qui s'appelle « La plénitude du vide ». Et il décrit tout ce que je viens de vous dire ici, et il met ça en relation avec le Tao, le bouddhisme, l'hindouisme. C'est ce que a fait d'ailleurs Trinh Xuan Thuan aussi avec Mathieu Ricard. Je ne sais pas si vous avez... C'est un très beau dialogue, très très intéressant, passionnant. Voilà, donc la plénitude du vide à recommander. René Péoche est un médecin, quoi dit ? Oui. René Péoche est un médecin breton qui a fait une thèse de doctorat sur la psychokinèse. Comme ça. À nouveau, ce n'est absolument pas un farfelu, c'est quelqu'un qui a obtenu son doctorat de médecine à l'unanimité du jury. Et donc, c'est quand même pas mal. Il a fait une expérience tout à fait étonnante avec des poussins. Et qu'est-ce qu'il voulait prouver ? C'est que l'esprit, la conscience, même la conscience d'un poussin, pouvait influencer la matière. Alors, comment marche son expérience ? C'est très... fallait le penser. Il a construit, enfin pas lui, mais... Ah, ici ? Ah ben je vais peut-être... Il a conçu, ou il a fait concevoir, un appareil qui est un robot à roulette. Voilà. Et cet appareil est animé d'un mouvement aléatoire. Donc, parfois, vous savez, c'est comme les robots de nettoyage, hein, dans les maisons. Il part par là, et puis tout d'un coup, il inverse par là, on ne sait pas ce qui lui passe par la tête, et puis il part par là, et puis il tourne sur lui-même, et il repart par là. De manière tout à fait aléatoire. Bon, jusqu'ici, rien d'étonnant. Sauf que... Il a eu l'idée de se dire le poussin est connu pour s'attacher au premier objet qui bouge à sa sortie de l'œuf. Et donc on a remplacé la poule, ici c'est pas l'histoire de la poule et de l'œuf, c'est l'histoire du robot et du poussin. On a sélectionné une série de poussins et la première chose qu'ils ont vue, c'est le robot en action. Qu'ont fait les poussins? Ils se sont mis à suivre le robot partout où il allait, puisque c'était leur mère. Jusque-là, rien d'étonnant. Ce qui devient étonnant, c'est qu'à un moment donné, Bon, on enferme le poussin dans une cage en verre, avec le robot à côté de lui, qui continue à tourner de manière aléatoire. Le poussin, dans sa petite tête de poussin, appelle le robot. Il veut sa mère, il est tout petit, il a besoin de sa mère. Et que va faire le robot? Plutôt que d'aller comme ça dans tous les sens, il va aller à gauche, à droite, mais on va remarquer que très souvent, le plus souvent, il va aller vers le poussin. Et donc il y a, parce que je ne vous ai pas dit, sous les roulettes, il y a de l'encre, et donc on peut suivre le tracé du robot. Et on a remarqué que les poussins appellent le robot, qui ne répond pas à chaque fois, mais qui répond dans la grande majorité des cas. Je vous invite à aller sur Internet voir ces expériences donc, de docteur et Hoche. Il y a un H ou deux. Voilà. René Péoche. Et qu'est-ce que ça montre, ceci? Eh bien, c'est notre sujet, c'est l'esprit, et ici l'esprit d'un petit poussin, agit sur la matière. C'est tout à fait étonnant. Évidemment, il y a eu des détracteurs de cette expérience, en disant, on a parlé de l'effet de bord, pas Bohr, Niels Bohr dont je vous parlais, mais de l'effet de bord du truc où se déplace le robot. En disant, mais forcément, il se cogne là, et vous avez déjà vu peut-être dans les robots ménagers, si le robot se cogne là, il va revenir, il va se cogner plusieurs fois au même endroit, jusqu'à se dire, ben, finalement, je vais aller ailleurs. Mais donc, l'effet de bord se produirait plus souvent à proximité du poussin. Mais c'est absolument faux comme objection, puisque le bord, il existe partout. Alors, pourquoi aller vers le bord du poussin, plutôt que ce bord-ci, le bord du dessus, le bord de l'autre côté? Voilà donc une expérience qu'on appelle de psychokinèse, c'est-à-dire l'influence de l'esprit ou de la conscience, de la volonté du poussin sur une matière inanimée. Voilà, ça j'avais oublié de vous en parler, alors je vous en parle maintenant. Nous abordons maintenant le deuxième chapitre dans la physique quantique. À quoi est-ce que cela nous mène finalement? Et à pourquoi est-ce que ça a sa place dans une journée comme celle-ci? Eh bien, parce que grâce à la physique quantique et à toutes les recherches dont je vous parle, on aboutit à une nouvelle vision du monde, et une nouvelle vision non pas métaphysique, mais physique, scientifique du monde. Donc, un nouveau paradigme, à une nouvelle perception de la relation entre la matière et l'esprit. Ou la conscience. Comme l'écrit Jean Stone, nous avons largué les amarres. Nous voguons sur la mer d'un nouveau paradigme. Les fondements de la matière ne sont pas des objets matériels. L'existence d'une dimension non locale ou holistique dans l'univers a été démontrée expérimentalement. Le concept traditionnel concernant le temps, l'espace, les objets, la causalité ne s'applique plus au niveau microscopique. La réalité véritable ne correspond pas à ce qu'on peut voir, mesurer, toucher. Elle est en grande partie voilée. Parce que, à la fois, je vous le disais, ça nous dévoile quelque chose, mais cette réalité reste voilée dans sa profondeur. C'est ce que dit Bernard d'Espagnac, qui est un autre grand scientifique qui a écrit un livre qui s'appelle justement « Le réel voilé ». Et ça nous montre aussi que nous ne pourrons jamais, jamais connaître la réalité telle qu'elle est. La réalité même matérielle est un immense mystère. Et ce n'est pas dû à nos insuffisances instrumentales ou nos insuffisances scientifiques, c'est un principe intrinsèque. Je ne développe pas ça parce que ça nous mènerait trop loin aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Mais lisez ça dans les annexes, vous verrez. Dans les annexes. Donc nous vivons une nouvelle, comme l'écrit Jean Stone, révolution copernicienne. Des sciences de la vie aux sciences de la matière. Des sciences de l'univers aux sciences de la conscience. Je ne vais pas lire tout ça. Alors, la théorie quantique concerne bien entendu la nature même de la réalité. Qui est somme toute la question centrale qui fascine tous les philosophes et tous les chercheurs depuis toujours, qu'ils soient scientifiques, philosophes, métaphysiciens, etc. Qu'est-ce que la réalité? En tout cas, ce qui est certain, on peut dire ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas une immense mécanique, comme on l'a pensé pendant des siècles. Elle n'est pas une espèce d'horloge dont on peut connaître tous les rouages. Tout ça, ça a été abandonné. Et de plus en plus, les physiciens en arrivent à ce qu'on appelle une conception holographique de l'univers. L'univers est un vaste hologramme et chacune de ses parties contient l'univers de manière holographique. Quand un hologramme, vous savez comment ce que c'est, je vais le dessiner dans le robot pour qu'on voit, hein. Si vous avez un cercle composé, mettons, de, pour simplifier, de trois cercles, chacun des trois petits cercles va contenir trois, encore plus petits cercles, qui vont chacun contenir trois, jusqu'à l'infini. L'hologramme, donc, nous avons dans chaque cercle la vision du tout. Vous voyez ? Bon, vous ne le voyez pas, moi je ne vois qu'à moitié, c'est pas faux de l'avouer. Mais ce qui voudrait dire que notre cerveau aussi est un hologramme. Nous avons dans notre cerveau la représentation totale de l'univers, même si nous n'y avons pas accès. Mais tout se répercute de l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est aussi ce qu'on appelle une vision holistique du tout, qui rejoint la vision orientale. Je vous cite une citation de Banesh Hoffman, qui est un physicien compagnon d'Einstein, donc ce n'est pas le premier venu, qui disait à propos de la matière, « Qu'est-ce que cette essence mystique » appelait-il. Et là, on rejoint notre sujet. « Qu'est-ce que la matière, cette essence mystique, qui existe en nous et autour de nous, et revêt tant de formes extraordinaires, qui est à la fois le maître et le serviteur de l'esprit, et tient dans la hiérarchie de l'univers un rang éminent en tant que premier instrument de la création divine. » Donc ce n'est pas un mystique qui écrit ceci, c'est un physicien de haut vol. Alors nous abordons le troisième chapitre. Qu'est-ce que le réel finalement? Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que le réel dans sa profondeur? Eh bien, je vais vous décevoir, mais je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, le réel nous échappe. Nous ne savons pas. Nous avons des lueurs, quelques visions de la réalité à la fois matérielle ou psychique, spirituelle, mais nous nageons dans un océan de mystères. Et on peut se poser alors la question, les questions, qu'est-ce que la conscience? D'où provient la conscience? Quelle est sa place et son rôle en nous et dans l'univers? Et ces questions sont évidemment fondamentales pour comprendre la relation, la connexion entre l'esprit et la matière, puisque nous avons vu déjà, par certains exemples dans d'autres domaines, que la conscience a un pouvoir réel d'interaction avec la matière. Alors, les conceptions classiques, je vous l'avais dit, Descartes avait dit, ben, il y a deux choses, il y a l'esprit d'une part, et il y a la matière d'autre part, mais on ne sait pas trop bien comment ces trucs s'articulent, quel est le lien entre les deux. Et d'autre part, nous avions la position que je vous ai évoquée tout à l'heure, des neuroscientifiques matérialistes, qui dit en réalité, il n'y a qu'une chose, il n'y a que la matière. Et la conscience est un épiphénomène de la matière qui surgit, ils ne savent pas trop expliquer comment, mais ils sont sûrs de toute façon que tout ça c'est matériel. Eh bien ces deux conceptions, à la fois de Descartes et des neuroscientifiques matérialistes, sont tout à fait battues en brèche par la physique contemporaine. Puisque la physique a découvert que tout, absolument tout, est interconnecté. Tout est interdépendant, notamment les particules de matière, mais aussi la conscience à la fois globale et individuelle, enfin plutôt individuelle et globale. Et pourtant, beaucoup de gens dans notre société partagent la vision matérialiste et classique, qui est décrite plus haut, car elle est dominante dans notre système éducatif. Est-ce que ce dont je vous parle, on l'a appris à l'école ? Non, pas du tout. On nous a transmis une vision.
Peut-être maintenant.
J'espère. Mais je lisais un physicien il y a pas si longtemps déplorait que dans beaucoup d'écoles, on en était encore à la physique de Newton et qu'on n'enseignait absolument pas la physique quantique. Probablement parce que les élèves, déjà, c'est pas facile de capter leur attention, mais avec quelque chose d'incompréhensible.
C'est pourtant plus passionnant.
Ah, c'est plus passionnant, oui. Et donc. Beaucoup de nos contemporains croient à la suite de certains neuroscientifiques matérialistes, comme je vous ai cité, Changeux, Crick en Amérique, Dawkins, que vous connaissez sans doute, que nous ne sommes qu'un paquet de neurones ou de cellules agencées. Un autre avait cette jolie image que finalement les êtres humains ne sont qu'un tas de réactions chimiques qui se baladent dans un sac. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est un certain Dean Hammer, un scientifique américain. Les scientifiques actuels plus avancés, comme par exemple Fridtjof Capra, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit le Tao de la physique, que je vous recommande, c'est magnifique comme livre, Massimo Teodorani, je ne sais pas si vous le connaissez, Prince Antoine, que je vous citais, Jean Stone, Pribam, Penrose, Mario Beauregard, Dean Radin, Rupert Sheldrake, Jean-Jacques Charbonnier en France, affirme que la conscience n'a pas du tout son origine dans le cerveau, mais ailleurs, dans une espèce de conscience globale, une autre réalité hors de l'espace-temps qui nous dépasse. Et ce sont des scientifiques, hein, ce ne sont pas des lucubrations de métaphysiciens qui ont le cafard le dimanche soir et qui inventent une théorie. Parce que nous faisons partie d'un seul système quantique. Tout l'univers est un système quantique holistique dont nous faisons partie. Rien n'est séparé de rien. Par exemple, le grand physicien Max Planck, vous connaissez sans doute un des pères de la physique quantique, début du XXe siècle, disait « Je considère la conscience comme fondamentale. Je considère la matière comme dépendante de la conscience. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous considérons comme existant postule la conscience. » Un autre, je n'ai pas le temps de le citer, Arthur Eddington, un astrophysicien. Et alors un autre qui est aussi prix Nobel, Max Planck, c'est un prix Nobel, hein, ce n'est pas un idiot. Eugène Wigner, prix Nobel de physique aussi. L'étude approfondie du monde extérieur conduit à la conclusion que le contenu de la conscience est la réalité ultime. Le contenu de la conscience est la réalité ultime. C'est extraordinaire comme citation de la part d'un scientifique. Voilà. Alors, je crois qu'il sera temps d'arrêter, malheureusement. On va en rester là. Voilà. Je voudrais juste terminer par cette considération. Vous avez quand même, je suppose, le sentiment que nous nous approchons du sujet, qui sont les miracles du Christ. Je crois qu'on les frôle, là. Il n'y a plus qu'une mince paroi qui nous en sépare et que nous allons aborder dans la troisième partie de cet exposé.